Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Bonjour, c'est Anka de MedRise Studio et vous êtes au bon endroit pour tout savoir des dernières tendances Web3 dans le secteur de la santé. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures et préparez-vous à décoller vers une destination où la réalité dépasse la fiction. Imaginez un monde où les limites de la médecine sont repoussées par la magie du numérique et où les professionnels de santé deviennent des maîtres de l'innovation, rien que ça, grâce à des outils sortis tout droit du futur. Ce monde, chers auditeurs, n'est autre que le métavers. Dans l'arène bouillonnante des nouvelles technologies où les sceptiques voient des modes passagères, les visionnaires, eux, reconnaissent les révolutions en marche. Et parmi ces pionniers, Microsoft se dresse comme un colosse façonnant avec audace le paysage de la santé de demain. Alors que les titres des journaux proclament la fin de l'ère numérique, nous plongeons tête première dans l'examen minutieux de ces technologies qui sont loin d'être éphémères. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir à nouveau une experte en la matière, Ingrid Vallée, Health Industry Advisor chez Microsoft. Alors, le métavers au service des professionnels de santé, c'est ici, c'est maintenant. Ingrid, bienvenue dans le MetaHealth.
Bonjour Anka.
Ravie de t'avoir à nouveau avec nous. Dans le précédent épisode, on a exploré les usages des métavers pour le grand public. On va à présent s'intéresser un petit peu aux professionnels de santé. Forcément, dans la santé, ils sont très importants. Une première chose, avant de commencer, le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans le secteur de la santé devrait atteindre 5,1 milliards de dollars d'ici 2025, avec une adoption croissante pour la formation, la planification des chirurgies et la gestion de la douleur. Ce sont les trois principales applications qui ressortent. Microsoft, avec ses initiatives et ses produits comme le HoloLens et ses partenariats stratégiques, se positionne comme un acteur clé au service d'un grand nombre de partenaires dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle stratégie adopte Microsoft pour développer et déployer ces technologies au service des professionnels de santé?
Le point le plus important, en cas pour apporter cette innovation sur le terrain, c'est d'adresser les bons cas d'usage. Ça peut paraître vraiment simple, mais s'assurer qu'on apporte une valeur réelle et qu'on n'est pas en train de faire de la technologie pour de la technologie, c'est l'élément le plus important. Donc cette proximité entre l'innovateur et le professionnel de santé, elle est particulièrement importante.
Ça, c'est hyper intéressant et hyper important à souligner, c'est l'usage et l'usage, parce qu'il n'y a que l'usage qui va entraîner l'adoption. Au-delà de toute prouesse technologique, si la valeur ajoutée pour un professionnel de santé à l'hôpital ou en ville n'est pas prouvée, finalement, on n'aura pas d'usage. Vous avez des exemples certainement de cette philosophie.
Donc oui, tout à fait. Donc Microsoft s'entoure d'un réseau de partenaires particulièrement experts et proches du terrain. On a des partenaires qui vont travailler avec des chirurgiens de spécialités définies pour comprendre exactement quel est leur process, quelles sont les informations dont ils ont besoin en pré-op, en post-opératoire, de quoi je vais avoir besoin quand je suis dans la salle d'opération. Ça, c'est cette expertise de terrain qui permet de comprendre les usages et d'apporter de la valeur.
Alors justement, le fait d'être familier avec ces outils, le fait de pouvoir les intégrer à son flux de travail, c'est hyper important pour un professionnel de santé. On sait le temps que passent ces personnes à gérer de l'administratif ou à apprendre comment utiliser différents outils qui sont tous un petit peu différents, qui ont tous leur mode de fonctionnement. Donc cette partie un petit peu d'éducation, de formation est très importante. Quelle stratégie est-ce que vous mettez en place pour encourager justement l'adoption de ces outils et faire en sorte qu'ils soient au plus proche des besoins des professionnels de santé?
Vous l'esquissiez dans votre question, le sujet n'est pas d'apporter des outils complètement à côté, des espèces de verrues applicatives qui imposent de changer les pratiques ou en tout cas le faire de la façon la plus limitée possible. Ça reprend la vision très plateforme de Microsoft qui est comment je comprends les process, les outils déjà utilisés et comment j'augmente ces outils-là plutôt que potentiellement rajouter des éléments à côté. Après, on peut pas toujours le faire. Hein. Parfois, c'est des solutions à part, mais l'objectif, c'est vraiment de pas rajouter de charges et de process.
Donc la simplicité avant tout et l'intégration aux pratiques déjà existantes finalement pour pas créer de nouveaux process et de nouvelles lignes d'apprentissage. On sait aussi que Microsoft est partenaire de la société Apoclar, qui a été reconnue pour son innovation dans le domaine de la réalité mixte. C'est une plateforme qui transforme les images médicales en objets interactifs 3D. C'est assez impressionnant et j'encourage nos auditeurs à aller regarder des images pour s'en rendre compte. Cette technologie, elle est déjà déployée dans divers domaines médicaux. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de comment les professionnels de santé se sont emparés de cet outil ?
J'ai en tête les exemples que vous évoquez et en effet, voir une simulation d'organes et pouvoir choisir où on se place, ajouter des images du patient, c'est effectivement assez bluffant. Il y a trois applications pour ce type de technologie. La première, c'est l'assistance pendant l'opération. La deuxième, c'est la formation. Et la troisième, c'est la télé-expertise. Pour la partie dans la salle d'opération, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelle information je peux mettre à disposition du chirurgien pendant l'opération pour lui permettre de faire les choses plus sereinement et aussi sans regarder partout pendant son opération. C'est le premier point. Sur la partie formation, là aussi, c'est assez impressionnant. On peut imaginer les jeunes chirurgiens être formés dans le métaverse, pouvoir répéter une opération avec différents exemples, pouvoir s'entraîner à une opération avec différents modèles de patients dans différents contextes pour différentes maladies. Et le dernier, c'est la partie télé-expertise. Et là, on est deux cardiologues et on a un sujet particulier à voir ensemble. Et je vais vous expliquer qu'il y a un sujet particulier pour mon patient. Plutôt que l'expliquer longuement, je peux vous le montrer en 3D et on voit ensemble et on regarde d'où ça vient. Et c'est ça, effectivement, ce sont des cas passionnants d'usage de cette réalité mixte.
Alors justement, le volet collaboratif est extrêmement important parce qu'on a souvent ces images des métavers collaboratifs où on a plusieurs professionnels de santé qui sont ensemble autour d'un patient virtuel et qui travaillent ensemble. Ça peut même être des patients réels où on amène plusieurs expertises autour de la table. On a notamment vu ça sur les opérations chirurgicales. On a différents experts du monde entier qui se connectent ensemble. Ma question, c'est... quel retour est-ce que vous avez eu des professionnels de santé vis-à-vis de ces technologies ? Est-ce que le buzz et le hype qu'il y a eu autour de ces environnements collaboratifs est réel ? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement dessus ou pas ? Quels sont les retours ?
Le niveau d'adoption est croissant. On a de plus en plus de pays, de plus en plus d'hôpitaux qui font appel à cette réalité mixte. Aujourd'hui, on n'est plus tellement dans le hype que de montrer qu'on fait de la télé-expertise. C'est quelque chose qui a déjà été éprouvé par plusieurs établissements. Aujourd'hui, ceux qui continuent à adhérer, c'est vraiment pour la valeur, c'est pas pour la communication. Donc, ça continue à évoluer.
On a beaucoup parlé des environnements virtuels dans le bloc opératoire et la formation des professionnels de santé, mais il y a certainement d'autres cas d'usage. Peut-être un cas d'usage sur lequel on attend moins les métaverses, c'est tout le volet organisationnel, notamment à l'hôpital. Comment est-ce qu'on fait face aux flux de patients ? Comment est-ce qu'on anticipe une nouvelle pandémie ? Pourquoi pas ? Est-ce que le métavers a un rôle à jouer là-dedans ?
Ah, tout à fait, c'est très pertinent. Si on part des besoins qu'on va avoir à la maille de l'hôpital, on considère qu'on a la salle d'opération comme goulot d'étranglement. Donc, on a parlé de mieux servir le chirurgien pendant l'opération, mais on peut aussi mieux servir l'hôpital dans la gestion de son flux. On a des solutions de simulation qui peuvent permettre de s'assurer, d'optimiser, d'automatiser l'organisation des opérations et leur préparation. On peut aussi très bien optimiser tout le parcours du patient à l'intérieur de l'hôpital, le faire plus vite ou s'assurer qu'il se déplace pas régulièrement à l'hôpital, qui peut être quelque chose de contraignant. Donc ça, c'est des simulations à la maille de l'individu. On peut le faire à la maille d'un département. Et donc avoir un métaverse qui permet de simuler les activités de la semaine prochaine, vérifier si j'ai bien le staff qu'il faut pour répondre aux besoins simulés, voir si je m'organise différemment, si j'ai envie de réorganiser mon département. Bah, je simule, je vérifie si c'est vraiment un mieux que j'ai en tête avant de le mettre en place. Ça, c'est des choses qui sont particulièrement intéressantes. Et sur les JO, en effet, tout ce qui est anticipation de grands événements, on a des digital twins qui sont utilisés depuis longtemps. C'était utilisé quand on se conçoit des stades, quand on prépare la Coupe du Monde, un digital twin. Pareil, l'hôpital aussi, c'est un lieu qui peut avoir des flux très forts et inattendus.
Peut-être pour qu'on se représente bien cette idée de simulation, de ce que ça peut être une simulation d'un grand événement ou d'un hôpital. Concrètement, quand on parle de métavers dans ce contexte-là, c'est quoi? C'est qu'on va recréer l'environnement de l'hôpital avec des personnes, des simulations de personnes, de flux, de médecins, de patients. Qu'est-ce que c'est concrètement?
Tout à fait. On construit un digital twin, un jumeau numérique, à partir de données réelles. Donc, on va prendre les données réelles d'informations de mon bâtiment. On va avoir de l'IoT qui va permettre de comprendre les flux de personnes aujourd'hui à l'intérieur du bâtiment. Et à partir de ces données de vie réelle, qu'on va réussir à comprendre de mieux en mieux, dont on va comprendre le lien entre un événement et un autre, là, on va être capable de faire des simulations. Donc, on va plus seulement être dans l'observation, mais on va être capable de lier des éléments initiaux avec des impacts. Et c'est ça qu'on va faire tourner dans la simulation. Et on va comprendre. Dans mon département, si j'ai deux infirmiers, voilà comment ça peut tourner en termes de flux patients. Si j'ai une troisième personne, voilà ce que ça donne en termes de flux patients. C'est à partir de données réelles et d'intelligence artificielle que j'arrive à représenter et simuler différents scénarios.
Merci beaucoup Ingrid, on va refermer ce chapitre fascinant sur les métavers au service des professionnels de santé. Un grand merci pour ton expertise et d'être venu pour ce deuxième épisode sur 4 qui nous attendent. Donc ne manquez pas le prochain où nous plongerons dans les coulisses de la pharma et de la recherche dans le métavers. À bientôt dans le Métahealth.